rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de nouveau de l'abbé de Rancé. Je vous en avais déjà parlé. Mais ce sera le 300e anniversaire de son décès en l'an 2000, mais surtout c'est le 900e anniversaire cette année de la fondation des Cisterciens par Saint Robert de Molem en France. Et dans ce monastère qu'il a fondé, bien, est entré, comme on sait, quelques années plus tard, Saint Bernard, dont je vous ai aussi parlé. Et plusieurs siècles plus tard, donc dans les années 1600, eh bien, un prêtre, volage, riche, homme de succès dans le monde du clergé, comme ça se faisait à l'époque, ce n'est plus comme ça aujourd'hui, l'Église est bien réformée comparée à cette époque, évidemment. Eh bien, ce prêtre s'est converti, puis il est devenu l'abbé de la Trappe. Il a fondé ce qu'on peut dire les trappistes, c'est-à-dire l'ordre des cisterciens de la stricte observance des réformés. Sa stricte observance a jeté un peu de discrédit sur lui dans le sens que l'on a pensé à travers des écrits malheureux de Bremont qui a écrit l'abbé Tempête, de Chateaubriand qui a écrit sa vie aussi. On a cru comprendre que cet abbé de Rancé était un homme devenu très intégriste, très sévère, esprit plutôt obtus. Mais quand on lit un ouvrage qui vient de paraître par une trappistine italienne, la sœur Anna Maria Caneva, le réformateur de la Trappe paru récemment chez Nouvelle Cité, vous pouvez vous procurer ça actuellement dans les librairies. Le réformateur de la Trappe, c'est une biographie de l'abbé de Rancé, avec une préface d'ailleurs très à point, très moderne, de l'actuel abbé de la Trappe. On peut se demander qui était cet abbé de Rancé au juste. Son nom complet est assez long, c'est Armand Jean Le Boutillier de Rancé. Il était donc abbé de la Trappe. Il est né à Paris le 9 janvier 1626. Et il est mort à près de 75 ans à Soligny-la-Trappe, comme on dit, ou à la Trappe si vous voulez, près de Mortagne. C'est de là que vient le nom de Mortagne sur la rive sud de Montréal. Il est mort le 27 octobre 1700. Il était fils du président Denis Mortagne, un homme important. Denis Le Boutillier, pardon, qu'est-ce que je dis? Denis Le Boutillier, secrétaire de Marie de Médicis, la reine. Il était aussi, comme vous voyez, il était vraiment de la haute société, il était filleul du cardinal Richelieu. On le tonsure alors qu'il n'a pas 10 ans. Ça se faisait à l'époque, hein, vous êtes au courant, hein? Comme quoi l'Église est bien réformée comparée à toutes ces choses. Il est tonsuré en décembre 1635. Il fait des études sérieuses, heureusement, puis il rencontre Bossuet sur les bancs de l'école. Passent ensemble leur licence. Et Rancé surpasse Bossuet dans ses études, au moment en particulier du diaconat. Il devient prêtre en janvier 1651, est docteur en Sorbonne, donc à 25 et 26 ans. Il est déjà docteur en Sorbonne, c'est-à-dire de la grande université de Paris. Hein. Il devient premier aumônier, ce qui est un titre très important sur le plan spirituel. Premier aumônier, c'est-à-dire le prêtre de service du duc d'Orléans. Et puis, il est sur la voie donc des plus hautes dignités ecclésiastiques et ses relations intimes avec une femme, Madame de Montbazon. Oui, des relations intimes, enfin, il est amoureux d'elle. Et ça l'entraîne à devenir un adversaire de Mazarin, mais la mort de Madame de Montbazon, que je vous ai racontée il y a 2 ans, je crois, à la même date, je vous ai tout raconté ça. Puis celle aussi du duc d'Orléans, d'ailleurs, dont il était l'aumônier. Eh bien, ça suscite un changement radical dans toute sa vie, dans sa vie mondaine. Et ça prépare son entrée à la trappe qui va venir 5 ans plus tard. Donc, comme je vous dis, je vous ai tout raconté ça, je ne vous le répète pas, parce que je voudrais aller à autre chose, à sa pensée. Car je m'étais longuement étendu sur sa vie la dernière fois. Les circonstances de cet événement grave sont à noter. Je vous les rappelle quand même. Rancé, d'ailleurs, explique plus tard au fameux duc de Saint-Simon qui a écrit, on les a dans la collection de la Pléiade, je crois que c'est 6 volumes d'histoire de l'époque, de tout ce qui se passait à la cour et autour, là. Alors, il explique donc à Saint-Simon qu'il ne bougeait pas de l'hôtel de Montbazon tant il était intimement lié à elle. Il faisait partie des amis les plus intimes de cette duchesse, qu'il rencontrait près d'elle, évidemment, les personnages de la Fronde. Je ne vous explique pas, c'est un peu trop long. C'est une révolte intérieure à l'intérieur de la France même, contre le pouvoir. C'est le temps où il jouit de la vie. Il mène grand train, cet abbé de Rancé, dans le monde. Il circule, imaginez, avec un carrosse traîné par 8 chevaux. 8 chevaux, c'est énorme. Ses vêtements, bien qu'il soit prêtre, sont très mondains. Puis il reçoit des tas de faveurs. Or, en avril 1657, Madame de Montbazon, comme je vous ai dit, est atteinte de pourpre, vous savez, des marques de rougeur, couleur sang, et elle meurt en 5 jours, elle meurt très rapidement, et Rancé près d'elle, il l'aime beaucoup, et il l'a pas quittée pendant cette terrible maladie. Il la voit, heureusement, recevoir les sacrements, comme il raconte, puis il est présent au moment de sa mort. Elle était très belle. C'était une veuve qui portait bien les vêtements de deuil, dit-on. Et c'est au lendemain de ce deuil qui frappe l'abbé de Rancé, que tiraillé depuis longtemps entre Dieu et le monde, car il a la foi au fond, même s'il se conduit mal, et il vit retiré sur sa terre, il a une terre à Véretz, puis se décide petit à petit à quitter le monde. Sa résolution n'a rien de précipité. Comme je vous ai dit, Madame de Montbazon meurt en 1657, et c'est 5 ans plus tard qu'il établit une entente avec les religieux de la Trappe. Cette entente date de 1662, donc 5 ans plus tard. « Je vous dirai, écrivait-il plus tard, que je me suis vu, écoutez bien, comme un homme condamné à l'enfer, par le nombre et par la grandeur de mes péchés. Et j'ai cru en même temps que l'unique moyen d'apaiser la colère de Dieu, évidemment c'est le langage de l'époque, hein, l'enfer, la colère de Dieu, mais ce sont des réalités dans un sens, c'est pas la colère de Dieu, c'est l'état de désespoir dans lequel il risque de se plonger pour l'éternité. Alors donc, Je répète, je vous dirai que je me suis vu comme un homme condamné à l'enfer par le nombre et par la grandeur de mes péchés. J'ai cru en même temps que l'unique moyen d'apaiser la colère de Dieu était de m'engager dans une pénitence qui ne finit qu'avec ma vie. C'est très beau, c'est très noble en même temps. Je trouve ça superbe, mais c'est une spiritualité qui n'est pas tout à fait celle qui connaît la miséricorde de Dieu. Et qui sait que si nous sommes indignes de la présence de Dieu, nous nous retirons de nous-mêmes. Pour l'éternité, je le crois. Le 13 juin 1663, il revêt donc au monastère de Notre-Dame de Persègne l'habit de l'étroite observance de Cîteaux, qui sont d'une observance étroite par rapport aux bénédictins dont ils sont issus il y a 900 ans cette année. Un grand anniversaire pour les cisterciens à travers le monde. Et en 1664, il reçoit à la Trappe de Mortagne, donc Soligny-la-Trappe, la bénédiction abbatiale et la crosse. Est-ce qu'il y a des moines à la Trappe? Ça ne renferme alors que 6 ou 7 moines pour qui la règle ne compte absolument pas, ou enfin pour ainsi dire pas. C'est très décadent. Or, l'abbé de Rancé est un homme perspicace. Et il s'est ramené bon gré mal gré ses moines à la stricte observance. Travail, nourriture, prière, veille à la chapelle, et le jour et la nuit. Ce n'est pas sans difficulté, évidemment. Mais sa volonté vient à bout de toutes les résistances, et bientôt la trappe devient l'idéal et le centre de la réforme monastique. Et Rancé fait imprimer en 1683, c'est plusieurs années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, son traité sur la sainteté et les devoirs de la vie monastique, qui a fait fureur pendant... jusqu'à récemment. On ne lit plus ça, je ne sais pas pourquoi, c'est évidemment ça a une teinte un peu coincée sur les bords, mais c'est très beau. C'est très, très beau. C'est beaucoup plus beau qu'on pense. Et son œuvre s'adresse non seulement d'ailleurs à ses moines, mais aux autres du dehors, car il a laissé beaucoup de monde qu'il connaissait au dehors. Il a une correspondance immense avec ces gens. Il fait de la direction spirituelle par correspondance. Les hommes peuvent venir le voir quand même au monastère. Et la réputation de ce réformateur attire sur lui l'attention publique. D'ailleurs, Bossuet fait jusqu'à 8 visites à la trappe. Qu'est-ce qu'il dit, Bossuet, de cet homme, hein? Il dit qu'il était le plus parfait directeur des âmes qu'on ait connu depuis Saint-Bernard. C'est tout un compliment de la part de Bossuet. Évidemment, ils étaient confrères de classe au début de leur vie, à leur jeunesse, mais quand même. Et tour à tour, frappe à la porte du monastère pour devenir moine, Monsieur de Tréville, le comte de Saint-Géran, le marquis de Lassé, le prince de Soubise, en somme, tous ceux qu'un remords tourmente. Hein? Et comme la trappe ne doit pas accueillir les femmes, elle se dédommage, comme je vous ai dit, en réclamant d'un abbé désormais célèbre des consultations écrites, qu'il leur accorde d'ailleurs très très généreusement. Et parmi ses correspondantes, on cite comme les plus avides les duchesses de Liancourt, de Lesdiguières, de La Ferté, de Chaune, de Luynes, grande famille, de Lude, de Lévy-Ventadour, les marquises de Villard, de Tourouvre et d'Ussel, les comtesses de Gramont, de Mailly, de Mornay, Madame de la Sablière, Mademoiselle de Vertu, à laquelle il a écrit de belles lettres, Mademoiselle de Lafayette aussi, en somme presque tout le monde qui était relativement important, d'après leur titre et tout ça, leur richesse, et Rancé conduit Madame de Belfond chez les Visitandines, Madame Dumière chez les Carmélites. C'est lui qui convertit la princesse Palatine, dont Madame de Gonzague, dont Bossuet a prononcé plus tard, n'est-ce pas, la magnifique oraison funèbre. Alors, malgré la règle du silence, on voit que Rancé parle donc, du moins au parloir, et il écrit beaucoup. Il écrit encore plus qu'il ne parle, et en 1702, l'imprimeur Muguet publie 2 volumes de ses lettres de piété. Les lettres ont été publiées récemment, d'ailleurs. Il est intarissable. J'ai, moi, dans ma bibliothèque, des livres de l'époque, publiés au moment de sa mort. Absolument fascinant, très intéressant. Il a écrit aussi sur la règle de Saint-Benoît, puis il avait sa façon d'entendre la règle de Saint-Benoît. Il proscrit, d'ailleurs, les études de son monastère, mais il prétend les proscrire de tous les monastères bénédictins. Ça lui crée une très mauvaise réputation. Il y a une dispute avec Dom Mabillon, dont je vous ai déjà parlé. Je n'y reviens pas, et vers 1697, sa santé est si ébranlée qu'il démissionne comme abbé, puis il meurt dans son monastère à l'âge de 74 ans, un 27 octobre. Je m'inspire donc pour cette émission de ce livre de la sœur trappistine, Anna Maria Canneva, qui est trappistine à Viterchiano en Italie. C'est l'un des monastères actuellement les plus prospères. Il y a 70 moniales, dont la majorité ont moins de 40 ans. C'est quelque chose, hein? Et la vocation particulière en ce monastère, c'est la prière pour l'unité des chrétiens. Elle a donc écrit ce livre aux éditions Nouvelle Cité, paru récemment, sur cet abbé de Rancé. Comme vous avez vu, c'est un personnage clé du XVIIe siècle, français. Il a renoncé, donc, comme vous avez vu, à la vie politique et mondaine. Il trouve sa voie au monastère cistercien de la Trappe. Il se met à le réformer en profondeur. Et par toutes ses relations et sa correspondance, il est donc au cœur de toute une vie spirituelle et intellectuelle française. et qui rejoint un peu tout le monde. Même le roi d'Angleterre est venu le voir très souvent. Il est donc à l'origine des cisterciens de la stricte observance, les trappistes que l'on trouve à Oka. Nous les connaissons à Oka, près de Montréal, ainsi que au lac Saint-Jean, et puis il y a les trappistines près de Québec aussi. Dans sa préface à cet ouvrage, le père abbé actuel de la Trappe, qui s'appelle le frère Marie-Gérard Dubois, il porte le nom de le titre de frère maintenant, de plus en plus. Je vous l'ai dit, je vous l'ai signalé. Plus de très révérendissime père, plus de toutes sortes de titres, non, frère, tout simplement. Le 17e siècle français, donc, a ses admirateurs, mais quand on pense au faste de la cour du Roi Soleil, où l'abbé de Rancé a fait ses éclats mondains, oui, il était auprès du roi. Ça semble très éloigné de tout ce qui nous entoure. Mais dans ce temps-là, la mort frappait très souvent, très jeune. C'est comme ça que la mort de la duchesse de Montbazon va le convertir. Et aujourd'hui, je crois que ça arrive aussi, hein? Parce que la mort frappe très jeune encore aujourd'hui. Oui, avec l'épidémie du sida, hein? C'est terrible. Et puis, on voit à la télévision tant de gens mourir dans des pays éloignés à des milliers de kilomètres. Nous sommes comme cuirassés, on mange en regardant ça, c'est terrible. Terrible. Nous sommes inondés par la mort et nous ne nous rendons pas compte que nous allons nous-mêmes mourir. C'est curieux. L'être humain est un être étrange. Et l'exemple d'un abbé de Rancé qui a vécu la légèreté tout au long de sa jeunesse, une jeunesse à la fois brillante, il avait fait de bonnes études, comme je vous ai dit, désordonnée. Il a tout abandonné, ça, pour une vie rigoureuse, lumineuse. Ça a de quoi nous faire réfléchir, dit le père abbé de la Trappe. La Trappe actuelle. Les constitutions, et les préparées par les chapitres généraux, de cet ordre ont été approuvés par le Saint-Siège il y a à peine quelques années, en 1990. Et il est dit au début, « Moines et moniales de l'ordre reconnaissent qu'ils doivent beaucoup au mouvement dit de l'étroite observance, qui défendit avec force à une époque troublée certains aspects du patrimoine cistercien et permit ainsi, à travers l'œuvre de l'abbé de Rancé et l'entreprise de Don Augustin de l'Étrange, qui a rétabli la Trappe après la Révolution française, eh bien, permis donc leur transmission aux générations suivantes. Aujourd'hui, il y a énormément de trappes en France, un peu partout dans le monde, aux États-Unis. Les États-Unis sont couverts. La figure de Rancé, évidemment, n'a pas le poids de celle de Saint-Bernard. Ses textes n'ont pas la même valeur. Mais ils sont très intéressants. C'est le radicalisme et la conversion de l'abbé de Rancé qui a influé le cheminement spirituel de sa communauté, des gens qu'il connaissait autrefois dans le monde. Ça a influencé nos générations, ça va influencer les siècles à venir. L'abbé de Rancé, pour qui la fidélité est éclairée aux observances monastiques, dit le frère Marie-Gérard Dubois, fidélité jusque dans leurs détails, n'a jamais étouffé l'esprit, le Saint-Esprit. Et ça, cet abbé de Rancé, il peut nous inspirer. Le témoignage de sa communauté, bien qu'appartenant au passé, peut nous questionner, dit-il, comme aujourd'hui celui de Tibirine. Je vous ai parlé il y a quelque temps des moines de Tibirine en Algérie qui ont été assassinés. Hein? Vous vous souvenez, ces moines qui ont été assassinés par des musulmans extrémistes, les islamistes, eh bien, ça peut nous stimuler dans notre marche vers le troisième millénaire. En 1668, Rancé, après avoir fondé, a dû affronter une série de difficultés dans ses rapports avec les autres ordres religieux pour s'exercer un grand attrait. Des moines des autres monastères, des autres ordres, voulaient rentrer chez lui. Le recrutement exceptionnel de sa Trappe a provoqué une véritable levée de boucliers de la part des supérieurs des autres monastères, des autres ordres même. Mérancy a soutenu toujours que la meilleure défense était une réforme sérieuse. Fallait réformer. Quand on réforme, j'ai l'impression que ça attire beaucoup de vocations. Rancé a eu toujours des amis sympathisants d'une manière ou d'une autre. Avec le jansénisme, il a conservé ses amitiés, même après sa conversion, mais il n'a jamais vraiment été janséniste. Faut souligner qu'il était absolument interdit à la Trappe de poursuivre des études théologiques, comme j'ai dit, et même de parler de tels sujets. C'est pour ça, à cause des disputes qu'il y avait en France à l'époque, sur toutes sortes de questions comme le quiétisme, etc. Chercher Dieu et sacrifier leur vie pour sa gloire, voilà le but de ces hommes. Beaucoup, non seulement dans le clergé séculier ou régulier, mais aussi parmi les laïcs, cherchaient quelqu'un à qui confier leur sort sur le plan spirituel. Ils sont allés vers lui. Rancé a donné la mesure de son sens de Dieu, de son humilité et d'une grandeur d'âme extraordinaire. Je pense, il écrit à une grande dame qui lui demandait des conseils spirituels. C'est un de ses plus célèbres témoignages. C'est beau ce qu'il écrit. « Surtout, madame, je vous donne un avis. Gardez-vous bien de considérer ce que je vous dis comme des oracles. » Il se prend pas pour un gourou. Hein? « Ne vous figurez pas que Dieu vous parle par ma bouche. Je ne suis capable de donner conseil à personne. Je ne suis pas assez bien avec Dieu pour connaître les choses par voie de lumière. Et je n'ai point assez de pénétration et de discernement pour entrer dans les secrets des âmes, ni pour me mêler de leur direction. » Et ce n'est qu'après des demandes répétées, puis avec beaucoup de regrets, qu'il consent finalement. Il dit, « Toutes les fois que vous m'avez fait l'honneur de me demander mes sentiments, c'est ce qu'il écrit à un ecclésiastique qui est tourmenté par des doutes sur son ministère, un prêtre. Il dit, « Celui qui m'est venu d'abord a été de vous exposer mes ténèbres et mon ignorance. Et il n'y a pas d'apparence que si j'avais été propre à donner des avis utiles aux personnes qui sont dans le monde, la divine providence, qui ne cache pas d'ordinaire la lumière sous le boisseau, m'en eût séparé comme elle a fait, et m'eût donné de si fortes inclinations pour une vie encore plus retirée que celle que je mène. » Alors il se rend bien compte que s'il est abbé d'une trappe réformée comme celle qu'il a, c'est plutôt surprenant pour lui qu'on vienne lui demander des conseils, les gens qui vivent dans le monde. Alors le gouvernement de son monastère a été béni par Dieu d'une véritable moisson de vocation. C'est extraordinaire, et si l'on suit avec attention le développement de son œuvre d'année en année, on s'aperçoit que son ascendance spirituelle, ses dons naturels, tout en ayant une grande importance, n'ont jamais été déterminants. C'est le radicalisme et la vérité de ses convictions, la ferveur de la pratique des règles monastiques, la complète sincérité de sa consécration à l'idéal. Tout ça, c'est fort, mais ça rend excusable aussi quelques erreurs, ou même de nombreuses erreurs, dues à l'inexpérience, puis aux zèles exagérés des premières années. Faut pas confondre l'abbé de Rancé des premières années avec la suite. Et il agissait vraiment avec beaucoup de maturité et beaucoup de bonté, comme vous allez voir dans la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, soyez sans crainte, je vous parle de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, l'abbé de Rancé, mais c'est un homme qui a eu une importance énorme, une influence immense sur l'Occident et même les moines trappistes qu'il a fondés il y a 300 ans et plus. Eh bien, ce sont des gens qui ont une énorme influence. Pensez à Thomas Merton aux États-Unis. L'immense influence de Thomas Merton, qui était un auteur de un moine trappiste et qui dont les livres étaient des best-sellers pendant des années, sur des questions fondamentales que se posent les gens. Et nous avons ici, près de Montréal, la trappe d'Oka, qui était la plus grande trappe de l'Église. Ils étaient près de 200 moines. Ils sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui, mais ils sont encore très vivants. Et on leur doit beaucoup, énormément, l'influence qu'ils ont eue sur la réflexion des laïcs, même de loin. Il suffisait de passer devant la trappe et on réfléchissait sur le sens de notre vie. Voici comment l'abbé de Rancé agissait avec les plus fragiles de ses disciples, les postulants, les novices. C'était pas toujours des jeunes, mais la plupart du temps, c'était des jeunes de 18, 20, 22 ans. Il s'agissait pour la plupart, donc, de gens âgés, de gens d'un certain âge, pour la conversion desquels il aurait été facile de s'extasier, tu sais, de dire « Oh, quelle admirable conversion !» Il était enthousiaste. Au contraire, Hansé, il scrutait toujours avec une très grande attention les désirs de ces gens qui avaient dépassé l'âge de 22-23 ans. Il cherchait dans la vie des nouveaux candidats à la trappe les traces d'un vrai passage de Dieu. Dieu est-il passé dans leur âme? Les signes de la sainte volonté de Dieu. Il disait, nos désirs ne doivent pas être les maîtres de nos conduites. Dieu n'aime rien en nous que ce qui vient de lui. Il n'appartient qu'à lui de nous marquer et de nous prescrire les voies par lesquelles il veut que nous marchions. Il ajoutait, Dieu est le maître des monastères. Il en ferme et en ouvre les portes à volonté. Alors il s'engage à connaître le cœur des postulants, de ceux qui arrivent, qui postulent, qui demandent. Je n'en admettrai plus, dit-il, que je ne les ai extrêmement vus et que je n'ai pas essayé par l'entretien que j'aurai avec eux de connaître le fond de leur cœur et de leur disposition. Dieu doit parler au cœur. Il dit, ce n'est point assez d'être persuadé de la sûreté que l'on trouve dans la vie religieuse et de la difficulté qu'il y a à se sauver dans le monde pour embrasser le parti de la retraite. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, et que ce n'est pas par des vues générales qu'il faut s'y déterminer, mais par un mouvement de l'Esprit de Dieu qui vous fasse connaître que c'est lui qui vous appelle. Il faut être appelé par Dieu, on n'entre pas là de son plein gré. Il ajoute, « Demandez-lui, mademoiselle, qu'il parle à votre cœur et qu'il vous dise ce qu'il ne vous a point encore dit. » Il dit aussi, « La paix du cœur marque la vocation. » C'est la joie, l'intime conviction, l'accord profond de la sensibilité, là, avec la raison éclairée par la foi que le novice peut justement rechercher et qu'il doit trouver si sa vocation est authentique. Et l'abbé de Rancé veut offrir à Dieu quoi? L'homme tout entier, y compris le cœur et ses sentiments, dans l'acception la plus grande en vigueur au XVIIe siècle. Nous devons remettre en perspective, évidemment, la légende qui fait de la trappe le réceptacle exclusif des pires pécheurs repentis. Pas exagéré. Il y a des pénitents qui sont nombreux, qui rentrent, d'accord, mais il y a aussi beaucoup d'âmes innocentes, de jeunes très purs, très nobles, très beaux, puis ou des adultes qui ont su garder dans le monde une foi vivante, depuis l'enfance. Rancé est attentif à l'humilité. Il est toujours détaché pour accueillir les véritables vocations qui se présentent, même s'il s'agit de personnes dénuées de moyens matériels, ou qui sont en mauvaise santé ou d'âge avancé. Il les accueille. Il est modéré, il est équilibré, il est patient avec les nouveaux venus. Il les accompagne dans leurs difficultés sans prétendre d'eux, surtout au début, une perfection peu raisonnable. C'est pas un homme archi-exigeant comme on l'a décrit. Il dit, soyez persuadés que Jésus-Christ n'a garde de retirer sa main après l'avoir tendue. Et c'est très beau ce qu'il ajoute. Écoutez bien ça. Pour ceux qui se donnent dans les communautés, les monastères, etc. Ou même nous, qui quand on se décide pour lui, il ajoute, faites en sa présence tout ce que vous faites. Croyez d'une foi vive qu'il vous regarde dans tous les moments. Alors, la sévérité légendaire de Rancé, sa grande indulgence, son équilibre évangélique, tout ça, ça doit être interprété à la lumière des enseignements qu'il donne. Un jour, un frère se met violemment en colère parce que sa famille s'oppose à sa prise d'habit, et cette fois, l'abbé se montre indulgent. Il juge que l'épisode vient d'une ferveur excessive, puis il pardonne à ce jeune moine qui a fait une colère. Ainsi, c'est un bon père. Rancé fait preuve de mansuétude, quoi. Il accorde son aide et son soutien, ou encore, selon les circonstances, il guide avec fermeté ses fils. Les novices, qu'il aime tant, ont, selon l'abbé de la Trappe, des devoirs, mais des droits aussi. Avant tout, le novice est responsable de sa vocation et doit tout faire pour que l'œuvre de Dieu parvienne à son achèvement. Et l'abbé de Rancé, ben, il est un conseiller spirituel très apprécié à l'extérieur de son monastère, je vous en ai parlé, hein. Et pour atteindre tous ceux qui s'adressent à lui, ben, il écrit un nombre immense de lettres. Ses biographes nous font savoir qu'à diverses reprises avant sa mort, il a détruit des milliers de celles qu'il avait reçues. Faut pas que personne lise ces lettres un peu secrètes de direction, hein, qu'il avait reçues. Les catégories auxquelles appartenaient ses correspondants, ben, très, très divers. La période de son activité épistolaire, ça s'étend sur 30 ans, ça fait beaucoup de lettres, ça. C'est une obligation incroyable qui s'était donnée. Évidemment, il avait tellement d'amis dans le monde. Hein. La conversion sensationnelle, ça a ébranlé la France presque. C'était à l'apogée de sa vie mondaine. Il était très, très connu. Et la réforme qu'il introduit dans son abbaye, puis ses efforts pour ramener les observances monastiques à leur ferveur, là, du début de la règle, les exemples merveilleux qu'il propose par sa vie, ceux qui filtrent du secret de la clôture dans les récits admiratifs de nombreux visiteurs à la trappe, ça fait de cette correspondance une obligation de charité. Il est obligé, les grandes dames qu'il a connues pendant la période de la Fronde, la Révolution interne, se rappellent les circonstances de sa conversion. Bien oui, la mort de la duchesse de Montbazon. Puis, il recourt à ses conseils en grand nombre. C'est ainsi qu'il compose un véritable petit traité de spiritualité que je vous ai signalé. Conduite chrétienne, adressée à son Altesse Royale, Madame de Guise. C'est un os, ça, c'est sur, un os sur la sainteté. Et puis je vous ai dit qu'il avait converti la princesse Palatine, Anne de Gonzague. Il a converti, puis aussi la duchesse de Longueville, la comtesse de Vertu, sœur de la fameuse duchesse de Montbazon, Madame de Lafayette, bien d'autres. Et parmi les laïcs, comme je vous ai dit tout à l'heure, on trouve le roi d'Angleterre, Jacques II, qui, après que son trône a été usurpé par Guillaume d'Orange, là, va souvent visite à la trappe chercher conseil auprès de l'abbé de Rancé. En somme, quand on parcourt ses écrits, surtout sa correspondance, on est stupéfait de la discrétion, du grand équilibre, avec lesquels il guide ses enfants sur le chemin de la perfection. Dans le passé, le seul nom de la trappe évoquait l'idée de pénitence extrêmement dure, un peu bête, hein? Excessive. Mais quand on connaît mieux la pensée de Rancé, quand on lit ses œuvres, on se rend vite compte qu'il y a une grande évolution entre les premières années et celle de la maturité, je le répète, qui sont plus calmes, plus pondérées. Il est dans la fidélité absolue à un idéal immense. Une grande partie de ce qui a été brodé sur la vie de la trappe est donc vraiment une légende qu'on doit en grande partie à Chateaubriand, puis à Bremont, puis à tous les autres. Selon Rancé, le but principal de la vie religieuse est de rendre gloire à Dieu par une exacte observance des saintes règles. Dans le livre Sainteté que je vous ai mentionné il y a une demi-heure, il affirmait que les pénitences volontaires étaient nuisibles. Imaginez, il affirmait que les pénitences volontaires étaient nuisibles et que pour expier les plus grandes erreurs, les observances régulières étaient suffisantes. Ça suffisait, il était comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, quoi. C'est surprenant, hein? Comme d'ailleurs Sainte Thérèse d'Avila. Rancé aussi souligne le devoir important des austérités selon la règle, ça suffit, dont on ne peut se dispenser cependant, sans motif grave. Mais il exige la permission explicite des supérieurs pour autoriser la plus petite pénitence en dehors des pratiques communes. C'est un peu comme dans le mariage, il y a assez de souffrances dans le mariage sans en ajouter. Dieu suffit au cœur de notre devoir d'État. Il est heureux là, quand il nous voit accomplir avec amour ce qu'on doit faire. Car il sait que nous allons nous-mêmes y trouver le bonheur. À la marquise d'Allègre, il écrit, le 15 novembre 1682, « Prenez sur votre esprit et sur votre cœur ce que vous ne pouvez prendre sur votre chair et sur vos sens, et croyez que la mortification secrète et intérieure est incomparablement plus grande que non pas celle qui est extérieure, qui frappe les yeux et qui tombe sous la connaissance des hommes. Dans l'une, on ne se peut mécompter. L'autre est sujette à des illusions presque infinies. » Mais cependant, il n'y a pas de limite là, à la mortification intérieure. Hein? Il est si loin d'attribuer aux pénitences extérieures une importance énorme pour la perfection religieuse, qui se fait pas scrupule de louer vivement et très souvent qui Saint François de Sales, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, hein? La douceur, la spiritualité normale de Saint François de Sales. Il louange son institut, puis il entretient d'ailleurs avec la visitation, qu'on appelle ça la visitation, les visitandines, une importante et volumineuse correspondance. Et souvent, il rappelle à ses disciples laïcs le devoir de la pénitence, mais sans aucune exagération. Oh, il écrit des belles choses aussi à la duchesse de Guise. Dieu veut bien que vous conserviez la distinction qu'il vous a donnée et que vous empêchiez qu'on ne l'oublie en la soutenant par un train, par des équipages qui conviennent à votre rang. Mais il faut en retrancher le faste, la pompe, le luxe, qui n'est jamais ni permis ni innocent dans un chrétien. La couleur de vos habits est déterminée par l'état de veuvage, de viduité, comme il dit, dans lequel la divine providence vous a mise. Ils ne doivent être ni riches, vos vêtements, ni magnifiques. Il suffit qu'ils soient propres. Et pour la coiffure, elle peut bien être pas comme on l'avait il y a 30 ans. Il faut qu'il y ait de la différence entre celle qui se propose de plaire à Dieu et d'être agréable aux hommes. Hein? Alors, enseigne. N'éprouve d'accord aucune sympathie pour les pénitences extraordinaires, puis conseille aux religieux l'observance exacte de leurs règles et aux laïcs l'accomplissement de leur devoir de bon chrétien, de leur devoir d'État. C'est ça qui compte. Les façons dont Dieu daigne nous éprouver avec les plus grandes fréquences, dit-il, sont les humiliations, les malheurs, les maladies, puis la mort de gens que nous aimons. Quand ses fils sont malades, il en prend soin. Dans son immense correspondance, il se laisse jamais emporter par une fausse piété. Il est cohérent. Il parle souvent du Père de miséricorde que la mort nous fait rencontrer. Le Père de miséricorde. Il pousse les gens à démontrer par leur foi, puis l'abandon à la volonté de Dieu, leur amour pour Dieu. Il n'est pas trop austère ou rigide, non, vraiment. Souvent, il déclare son dévouement total, son amitié sincère aux personnes qui se confient à lui et qui ne verra jamais, surtout quand il s'agit de femmes qui n'ont pas l'autorisation de se rendre auprès de lui. Il dit, vous croyez bien que la retraite dans laquelle nous passons notre vie ne diminue en rien les sentiments que l'on a pour vous depuis tant d'années? Alors, il aime encore ces gens qu'il a très bien connus. Puis, le jour de sa mort approche, impuissement sensible, il désire revoir ses amis. Il dit, je ne vous dis pas quelle sera ma joie si vous visitez encore une fois notre désert, comme vous me le promettez. Et Rancé fait preuve au cours de ces dernières années de sa vie, d'une sérénité, d'une paix, d'une liberté qui prouve bien, clairement, la maturité de sa vie spirituelle. Lui aussi, il a payé son inexpérience, suivant cela sans le vouloir, les traces de Saint-Bernard, qu'il a tant aimé et admiré. Saint-Bernard aussi, au début, était un peu exagéré. Mais désormais, la plus grande partie des spécialistes qui ont étudié cette grande personne, comme Pezzoli, Kreisheimer, s'opposent à un jugement et réfléchissent sur son œuvre comme on l'a fait trop souvent. Et comme pour racheter les exagérations du passé, ces gens-là nous invitent à relire de manière positive ses écrits. Il faut lire Sainteté, son livre. Ah, c'est si beau, il y a de belles choses là-dedans. On ne saurait ne pas demeurer d'accord que la première et la principale obligation, dit-il, d'un solitaire, ne soit de s'appliquer à Dieu dans le repos et dans le silence du cœur, de méditer incessamment sa loi, de se tenir dans une désoccupation parfaite de tout ce qui peut l'en distraire. On peut donc trouver la joie parfaite qu'en Jésus-Christ. Il écrit, il faut qu'il remplisse tout seul la capacité du cœur. Ainsi, on pourra jouir de la solitude des cloîtres. Il écrit, la paix y est profonde. Et Jésus-Christ, qui est le roi de la paix, et qui se plaît partout où elle se rencontre, y établit son royaume. L'abbé de Rancé dit des choses tellement belles, je vous en lis encore. Dieu ne manque point de consoler d'une manière secrète et invisible ceux qui ont le cœur comme brisé. C'est ce qui fait dire que la douleur vive et profonde de la pénitence reçoit la consolation de Dieu, comme la pureté du cœur reçoit l'illumination du ciel. La pureté du cœur reçoit l'illumination du ciel. J'ai déjà rencontré comme ça des sœurs, comme petite sœur Annie, puis des moines dans des monastères, puis même des femmes dans le monde, des mères de famille, qui ont une telle pureté de cœur, qu'on ressent devant ces gens, hein, qu'ils ont reçu l'illumination du ciel dont parle l'abbé de Rancé. Il ajoute, l'abbé de Rancé, que cette consolation est un rafraîchissement de l'âme affligée, qui comme un enfant pleure et crie en elle-même avec tendresse et avec amour. Et que ce rafraîchissement est un renouvellement de l'âme accablée de douleur, lequel, par un merveilleux effet, change des larmes amères et cuisantes en d'autres larmes douces et agréables. Oui, c'est de l'abbé de Rancé. Alors, la communauté accueille comme un trésor, hein, des enseignements comme ceux-là. Hein. Elle est manifestement unie autour de son abbé. La communauté de la Trappe est sereine. Quand les difficultés puis les bourrasques s'abattent nombreuses sur ce pauvre monastère de la Trappe, en dehors du cloître, on peut imaginer l'ampleur de son influence à travers sa correspondance, les amitiés qu'il a cultivées avec l'oratoire fondé par Saint-Philippe Néri. Je vous ai souvent parlé, l'oratoire en France est très important. Et puis, les amitiés qu'il cultive avec Bossuet, ça je vous en ai parlé, avec de nombreux évêques aussi, beaucoup d'évêques. C'est une influence tranquille, sans épisode dramatique, une influence positive, féconde. Après sa mort, survenue le 27 octobre 1700, la Trappe continue à vivre et le nombre de ses religieux a augmenté. Ça augmente toujours, ça augmente. Un tel résultat aurait été vraiment impossible si sa règle avait été aussi dure, cruelle, irrationnelle que ses ennemis voulaient le faire croire. Hein? Sous les successeurs de l'abbé de Rancé, bien, l'abbaye continue à s'épanouir. On écrit, l'esprit qui au début de 1662 a transformé des pierres branlantes et des religieux bien mal en point en une communauté prospère de plus d'une centaine de moines, cet esprit la soutient avec une grande vigueur jusqu'à la révolution de 1789. Personne n'a encore réussi à attribuer ce phénomène spirituel à des facteurs économiques ou sociaux. Non, la Trappe de 1789 au moment de la Révolution française n'est comparable qu'à Clairvaux ou à Citeaux pour le nombre de ses moines. Beaucoup se sont trompés dans leur jugement sur la Trappe. Mais Rancé ne s'est pas trompé. Ce qui a eu lieu après la Révolution française est intéressant pour évaluer tant ce qui demeure de l'influence de Rancé que la légende romantique qui l'accompagne longtemps et qui est encore aujourd'hui l'aspect le plus connu de l'histoire trappiste. Ils ont été dispersé, le monastère de la Trappe s'était dispersé par la Révolution, comme les autres. Et c'était une odyssée incroyable que je vous raconterai un jour en vous parlant de Don Augustin de l'Étrange. C'était alors maître des novices, qui devient guide de la communauté en cette période difficile. Et beaucoup de moines, après en avoir reçu la permission, s'enfuient à la Val-Sainte, en Suisse, près de Fribourg. Mais ils doivent à nouveau s'en aller à l'approche des troupes françaises et durant leur bref séjour en Suisse, Don de l'Étrange rédige un ensemble de règles réformées très austères que le Saint-Siège autorise seulement de manière provisoire. Et petit à petit, tout ça essaime. Ils vont en Italie, en Espagne, au Canada, chez nous ici, oui, à Oka. Et en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, bon, ça va, en Autriche, en Pologne, en Russie. Puis ils reviennent en France. L'influence de l'abbé de Rancé était immense. On ne peut nier que Dieu a favorisé l'œuvre qu'il avait commencée. De fait, aujourd'hui, 300 ans après ses débuts, cette œuvre est encore bien vivante, j'insiste, et peut soutenir la comparaison avec les grandes floraisons cisterciennes dont notre abbé se voulait l'héritier fidèle. Rancé se voulait fidèle. Pour ce qui est de l'abbé de Rancé, je voudrais pas cacher ses erreurs. Il y avait parfois des colères injustifiées. Il a fait des petites fautes déplorables ici et là avec certaines personnes, mais c'est humain. C'est qu'il avait une nature impétueuse. Et s'il n'y avait pas eu cette nature impétueuse, il n'aurait pas fait cette réforme, puis il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Il ne se serait pas converti comme il s'est converti. Les critiques ne lui ont pas épargné leurs flèches à cet égard. Hein. Mais il faut quand même attirer l'attention sur les grandes vertus qui l'ont distingué entre tous. C'est quoi? Son amitié, sa compassion, sa foi. On a écrit, Rancy avait des défauts de ses vertus, si l'on peut dire. Il servit Dieu de tout son être, avec une générosité et un détachement sans pareil, amenant hommes et femmes, connus ou inconnus, à la foi et à l'espérance. Il a exercé ardemment le silence et la paix du cloître, même si les événements où il a été impliqué lui ont laissé bien peu de chance. Pour autant qu'il était en son pouvoir, il a passé sa vie au service des autres, au service de ceux qui demandaient son aide, dans un élan de charité se totalement désintéressé. Ça, on le voit dans ses lettres et partout dans sa vie. Il a inspiré et donné l'amour. Et sans ce contexte de charité, aucune de ses œuvres n'aurait pu survivre. Vous voulez voir des gens pleins d'amour, remplis de cet amour, de l'ordre des cisterciens réformés? Allez à Oka, allez à Mistassini, allez à Lévis chez les Trappistines. Vous verrez des gens merveilleux, des gens remplis de cet esprit de l'abbé de Rancy, qui dit à un moment donné, « Je vous dirai, mes frères, qu'il est de la règle de Saint-Benoît à l'égard de ceux qui en font profession, comme de l'Évangile à l'égard des chrétiens. Et Jésus-Christ ne trouve guère plus de fidélité dans ceux qui se sont engagés par les vœux du baptême, d'en suivre les vérités et les maximes, que Saint Benoît trouve d'exactitude et de religion dans ceux qui se sont obligés par une protestation publique d'observer sa règle après l'avoir volontairement embrassée. » En d'autres termes, avant de reprocher aux moines de ne pas observer leurs règles, vérifions donc si nous-mêmes nous observons les lois que notre baptême nous engage à suivre, qui sont des lois de l'amour et de l'observance du devoir d'État dans l'amour. Aujourd'hui, à la messe, Jésus dit à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. »